Oui, ça fait quand même un petit bout. J'ai pas été ici. J'ai été à trois mariages, en fait, là, déjà dans le mois de mai et juin. Et on était invité à quatre. Donc, on était un peu absent dans les deux dernières fins de semaine. Et puis, en fin de semaine passée, j'ai officié mon premier mariage en tant que pasteur. Donc, tout s'est bien passé. J'ai pas commis les erreurs de mon beau-père qui aurait fait des gaffes assez monumentales à certains moments clés, là, en échangeant des mots qui ont des connotations pas mal différentes, là. Je ne dirais pas en quoi, mais je pense que certains d'entre vous, je vous ai déjà dit en quoi ça consistait, mais ça s'est super bien passé. C'est un beau mariage, vraiment une belle journée et tout. Fait que je rends grâce à Dieu pour ça. Et puis, donc, j'ai quelques photos pour vous. Comme Michel a dit tantôt, le J2, donc le groupe jeunesse de l'église, a été vendredi soir dans le quartier. On a organisé une fête de quartier. Et puis, peut-être qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui avez été là, je vous inviterai tout simplement à partager comment vous avez expérimenté ça, qu'est-ce que vous avez aimé de cette soirée. Puis, donc, quelques petites photos. Ouais, je pense que le micro, je vais le prendre dans mes mains pour essayer de voir Constance. Bon, OK. Donc, comme je dis, vendredi soir, on était dans le quartier ici, on a donné des popsicles aux enfants qui étaient là, ils se sont agglomérés là, on était les chercher même dans les rues plus loin pour être sûr que le plus puisse en bénéficier. On avait des jeux, on avait même une pièce de théâtre. Donc, voici un peu la gang. On voit ici les filles qui font des maquillages et puis on va aussi, c'est ça, les gars pendant ce temps-là jouaient au soccer et puis on avait une belle gang. On avait sûrement une 30 à 40 enfants, je dirais. Et c'était vraiment un beau moment. Donc, il y a ça ici qui fait du maquillage. Et puis encore là, Sarah. Des bons popsicles pour rafraîchir. Et là, Alex, notre homme fort qui rallie les troupes avant de commencer la pièce de théâtre qui portait sur, dans le fond, ça nous projetait dans le futur, en 3374 à peu près. Puis, ça nous amenait dans un monde tellement pris par la technologie qu'il n'y avait plus de relations humaines, vraiment. Il n'y avait plus d'amour, il n'y avait plus d'entraide. Chaque personne dans ce monde était simplement dans leur boîte électronique, commandait par Internet, faisait tout par Internet. Et donc, est-ce qu'il y a un beau thème. On aurait aimé vous présenter la pièce de théâtre ce matin. Malheureusement, il manque des vedettes. Donc, sont-ils en train de se préparer? Oui? OK, on va pouvoir la montrer. Fait que je vous dirai pas le punch. Donc, ici, on voit un de nos acteurs et puis tous les enfants qui écoutaient là. Donc, toute l'équipe. Et puis, c'est ça, c'était vraiment une belle soirée. Il y a eu une belle réponse de la part des jeunes. On s'est amusé beaucoup. Et ouais, OK, parfait, c'est excellent. Dans 5 minutes. Et puis, c'est ça, des jeux, encore une fois. Donc, je suis content. On me dit qu'on est prêt à la faire finalement. Les acteurs sont arrivés. Et puis, c'est vraiment bien conçu. C'est Laurie qui a pris les idées du groupe. Au début, on a fait comme un brainstorming. On s'est dit quel concept on aimerait faire. Et puis, on a pris les idées d'un peu chacun. Et là, Laurie est retournée chez elle et a fait un scénario. Et c'était vraiment bien monté. Et puis, c'est une belle illustration par rapport à l'amour. Qu'est-ce que vraiment l'amour? Et puis, justement, en tout cas, je ne vais pas trop vous en dire parce que là, ça va commencer d'une minute à l'autre. Mais peut-être que, je sais pas, Sarah, tu voudrais-tu dire quelques mots en attendant que l'équipe se prépare sur la soirée? Toi, comment t'as vécu ça? Comment t'as aimé ça? C'était quelque chose qu'on avait déjà fait. Hein? Dans le passé, ben moi, j'étais pas là, mais je pense que
Ouais,
la
on avait
jeunesse.
fait une pièce de théâtre, par contre. Ouais. Moi, qu'est-ce que je pourrais dire, c'est que je suis arrivée à la soirée vraiment fatiguée, vraiment, vraiment fatiguée. Puis lorsque j'ai vu tous les enfants arriver, là, ça m'a donné tellement d'énergie, puis un regain de. C'était trop beau les voir avec leur Mr. Freeze dans les mains, puis vraiment le sourire au visage. La pièce de théâtre, ça a tellement pas tourné comme on pensait que ça allait tourner. On pensait que toutes les jeunes allaient être calmes puis allaient nous regarder, mais non, ils voulaient participer. C'était vraiment drôle. Ils étaient dedans, là. Ils étaient dans l'histoire. Puis ouais, on a bien ri en tout cas. Puis ouais, c'était le fun de jouer avec les jeunes. Puis c'est ça, les nourrir. Puis être là pour eux.
Merci. Donc, c'est ça. En tout cas, c'est vraiment une belle expérience. Ça va être à refaire. Et puis, Benjamin a pris encore plus de photos. Probablement qu'on va le mettre sur le site Internet de l'Église, qui est en construction. Il va sûrement apparaître au cours de l'été. On vous tiendra au courant. Mais on va mettre sur le site des photos de ça, mais aussi de la Soirée des Nations, tous les grands événements qui se passent à l'Église. Puis ça va être agréable de pouvoir voir un peu la vie communautaire que nous avons. Donc, c'est ça. OK, fait que je pense que je vais juste aller voir où est la gang, voir combien de temps à peu près ils ont encore de besoin. Puis sinon, je commencerai mon message et puis on partira juste un peu plus tard. Donc, c'est ça. On me demande encore 5 minutes. Donc, je vais commencer le message. Et puis, dès qu'ils sont prêts, on va couper, on va faire une pause, on va faire la pièce de théâtre, puis on reprendra après. Ouais. Donc, vous allez voir, dans la pièce de théâtre, il y a différents personnages qui sont comme dans des poubelles, là, 3 grandes poubelles. Vous avez vu déjà des photos. Et puis, chacun de ces personnages a une personnalité qui lui est propre. Et un de ces personnages s'appelle Nu-Pied. Bon, c'est le nom qu'on lui a donné. Et puis, Nu-Pied, c'est un philosophe manqué. Vous allez voir, il aime réfléchir sur la nature des choses, mais sur la nature des choses évidentes. Par exemple, à un moment donné, quelqu'un dit « Ah, on t'a pas demandé ton avis. » Et là, il dit « Mais qu'est-ce qu'un avis? » Et là, un peu plus tard, quelqu'un parle d'une personne qui était emprisonnée. Et là, « Mais qu'est-ce qu'être emprisonné? Est-ce être un prisonnier ou est-ce être en prison? » Ce genre de questions évidentes. Et c'était drôle parce que à un moment donné, les jeunes commençaient à trouver ça, commençaient à protester parce que c'était tellement niaiseux, ce genre de philosophie, que c'était comme, ben là, wow, là, les jeunes commençaient vraiment à protester. Et là, à un moment donné, il en a fait un autre. Mais qu'est-ce que la nuit? Est-ce l'absence du jour ou l'absence de lumière? Et là, les enfants ont vraiment dit « Hey, là, wow, là, là! » Et c'était vraiment comique de voir la réaction des enfants. Mais en fait, ce matin, vous allez peut-être protester comme les enfants, et je vous donne le droit de même de verbaliser parce que je vais vous poser une question pareille comme Nu-Pied posait aux enfants sur la nature des choses qui peut vous sembler évidente. Et ma question pour vous, c'est « Qu'est-ce qu'aimer? » Qu'est-ce que veut dire « aimer? » Et puis, c'est peut-être... OK, là, je suis en train de perdre mes notes. Ça va m'aider. Donc, j'aimerais vraiment que notre réflexion sur l'amour ce matin dépasse celle du petit Larousse qui, à un certain point, dit que aimer, c'est être amoureux ou c'est éprouver de l'amour pour quelqu'un. J'espère qu'on va dépasser ce stade-là. Mais sérieusement, d'un côté, l'amour, c'est vraiment... probablement la valeur chrétienne la plus importante de toutes, comme 1 Corinthiens 13 le dit. Mais non seulement ça, mais de l'autre côté, nous aussi, les êtres humains, on aspire profondément à être aimés et aimés. C'est des besoins profonds que nous avons. Donc, ce matin, tout simplement, ce que j'avais à cœur de vous partager, c'est un message qui nous encourage à persévérer dans l'amour, dans nos efforts d'incarner cette valeur que Jésus a parfaitement modelée. Donc, simplement... qu'est-ce qu'aimer? Et puis, j'aimerais vous convaincre de la nature fondamentale de l'amour selon la Bible. Et donc, quand on va sortir d'ici, là, je vais me tenir à la porte là, puis je vais vous demander à chacun la définition fondamentale de l'amour selon la Bible. Et si vous ne me donnez pas la bonne réponse, soit que vous retournez vous pratiquer ou qu'on fait un débat biblique parce que vous n'êtes pas d'accord et vous voulez me démontrer que je suis dans l'erreur. Mais non, tout simplement, c'est ça. C'est que j'aimerais vous communiquer c'est quoi la définition biblique de l'amour et puis qu'on regarde ensemble certains textes clés concernant l'amour. Un bon concept, puis je serais fier de notre jeunesse C'est vraiment une belle pièce de théâtre. Et puis, donc, vous avez pu voir ce fameux nu-pied dont je vous parlais, là, le philosophe manqué. Mais il est quand même capable de donner des bonnes lignes parfois, n'est-ce pas? Hein? De la même manière, j'espère être capable de vous donner certaines bonnes idées là, sur lesquelles mijoter cette semaine et qui va vous inspirer dans cette valeur qu'est l'amour. Et là, faut que je retrouve mes notes. Donc, on a vu une superbe définition de l'amour dans le dictionnaire qui est très circulaire, comme on est souvent habitué de voir dans le dictionnaire, mais il y a quand même d'autres entrées où est-ce qu'on a plus d'infos. Et puis, j'aimerais justement réfléchir un peu sur la définition culturelle que nous avons de l'amour, comment on utilise le mot au quotidien. Et puis, d'autres entrées dans le dictionnaire parlent de l'amour comme étant dans le fond, de l'affection que l'on a pour quelqu'un ou quelque chose, de la tendresse, de l'amitié ou de la passion. On parle aussi de l'amour comme étant avoir du goût, trouver du plaisir à faire quelque chose ou trouver du plaisir à être avec quelqu'un. Une autre définition, c'est avoir une forte attirance. Et puis, toutes ces définitions-là sont un peu, dans le fond, orientées vers notre appréciation de quelque chose. Et puis, est-ce que cela peut faire du sens à la lumière du commandement que Jésus nous a donné de nous aimer les uns les autres et même d'aimer nos ennemis? Est-ce que on pourrait prendre la définition du Larousse et transformer le mot « aimer » par « avoir une forte attirance »? Ayez une forte attirance envers vos ennemis. Ayez du goût pour vos ennemis. Ayez de trouver votre plaisir dans vos ennemis. Je crois pas. Ça doit être quelque chose d'autre que Jésus voulait dire que cette définition qu'on peut avoir. Donc, comme je dis, quand on utilise le mot aimer au quotidien, la plupart du temps, ce qu'on veut dire, c'est qu'on apprécie tel ou tel aspect d'une personne ou de quelque chose. Et puis, dans cette optique, l'amour s'expérimente surtout quand on fait une expérience positive de l'autre ou de quelque chose. Mais notre appréciation va bouger sur le continuum, dépendamment de si on fait une expérience positive encore ou plus négative. Donc, c'est sûr que l'appréciation, c'est une bonne chose, mais c'est souvent ballotté comme par le vent, un peu comme les émotions. Et puis, un psychologue, Willy Pacini, offre une belle illustration ici par rapport à qu'est-ce que les émotions versus les sentiments. Il dit ceci, « De même que dans l'océan, les vagues en surface coexistent avec des courants plus profonds, les émotions ponctuelles du couple cohabitent avec les sentiments sur lesquels se constitue véritablement le rapport. » Donc, une belle illustration aussi pour dire que dans le fond, les émotions sont quelque chose que l'on expérimente dans nos relations, mais c'est des choses qui sont super bonnes, mais c'est sujet à changement, c'est comme l'appréciation, mais que dans les relations, dans toute relation, il y a des dispositions plus profondes qui nous animent, et puis c'est sur ces dispositions plus profondes que se construisent vraiment nos relations. Et puis, c'est sûr que le type d'amour, appréciation à sa place, c'est super bon. C'est le fun de surfer parfois sur les vagues. Hein? Parfois, par exemple, faut faire plus de la plongée sous-marine, aller plus profond et puis aller voir qu'est-ce que Jésus lui-même veut dire par le mot amour. J'ai une citation ici de C.S. Lewis qui dit ceci. L'amour, dans un sens chrétien, ne fait pas référence à une émotion. Ce n'est pas un état sentimental, mais un état de volonté. C'est cet état de volonté que nous avons naturellement à propos de nous-mêmes et que nous devons apprendre à avoir envers les autres. Notre amour pour nous-mêmes ne veut pas dire que nous nous apprécions nous-mêmes. Cela veut dire que nous souhaitons notre propre bien. Donc, ici, il fait une distinction vraiment importante et puis on va la faire dans quelques instants. Est-ce que tu peux avancer? On a des petits problèmes avec la manette aujourd'hui. OK. Ouais, encore. Ouais, encore un coup. Donc, j'aimerais qu'on lise ensemble ce texte-là qui, pour moi, vraiment fonde ma définition biblique sur l'amour, mais elle est agrémentée par d'autres passages bibliques. C'est le passage de la parabole du bon samaritain. Et puis ici, j'ai juste pris un extrait de la parabole. La parabole vise à répondre, dans le fond, jusqu'à quel point notre amour devrait être étendu. Quelle est l'extension de notre amour? Est-ce qu'elle est limitée à ceux qui nous plaisent, notre prochain, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ou ça dépasse dans le fond, les gens qui nous plaisent, et ça va même jusqu'à nos ennemis ou ceux pour qui, envers qui on a des préjugés. Et là, Jésus répond à cette question en donnant la parabole du bon samaritain. Donc, mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui. Donc, lui, c'est l'homme qui a été battu par des voleurs et sur le long du chemin, qui a été laissé comme pour mort. Alors que deux personnes religieuses avaient préalablement passé, puis l'avaient comme laissé là, avaient fait fi de lui. Le samaritain, lui, au contraire, il le vit et il eut compassion. Donc, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux deniers, les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de lui et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. » Déjà là, deux éléments. Déjà, vous voyez, j'ai souligné certains mots-clés. Premièrement, il eut compassion. C'est une attitude interne qui au niveau de notre disposition intérieure. Puis deuxièmement, il prit soin de lui. C'est une action, c'est externe, c'est extérieur. Et deux fois, l'expression « prendre soin de lui » revient. Donc, je vais juste continuer à la fin de ce passage-là. Tu peux expliquer une autre fois. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Il répondit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Donc, qu'est-ce qu'aimer selon Jésus? Qu'est-ce qu'aimer selon la parole de Dieu? Et puis, donc, une première chose qu'on vient de voir, c'est se préoccuper. Il eut compassion de lui, verset 33. En anglais, il y a l'expression to care. Ça parle de nos motivations intérieures. Ça parle de qu'est-ce qui nous anime intérieurement. Et puis, 1 Corinthiens 13 va démontrer que si on n'a pas les bonnes dispositions intérieures, on a beau faire les actions extérieures qui sont correctes, qui sont nobles aux yeux des autres, mais en fait, aux yeux de Dieu, on fait rien. Parce que, imaginez-vous un homme d'affaires qui a beaucoup, beaucoup d'argent, et puis il se dit, bon, ce serait peut-être pas mauvais pour mes impôts que je fasse un bon gros don là à des organismes sans but lucratif, ça va m'épargner un peu d'impôts, et puis ça va bien me faire paraître. Fait que je vais faire un don de 10 000 $ à l'hôpital Sainte-Justine. Et puis là, il organise tout un événement avec le gros chèque en grand, là, il prend les photos, là. Plein de photos. Et est-ce qu'il a fait une bonne action? Dans un sens, oui. Mais dans un sens, aux yeux de Dieu, ça dépend de ses motivations. Si c'était purement pour être vu et gagner l'honneur, la faveur et la crédibilité sur le plan social, son action, qui est pourtant bonne, est amoindrie aux yeux de Dieu. Parce que ses motivations à l'intérieur, c'est pas tant l'autre qui le préoccupe que soi-même. Ou du moins, c'est assez mélangé au point tel que c'est difficile de faire la distinction. Mais dans la parabole, on voit que l'amour se préoccupe de l'autre et va même va être prêt à payer, va être prêt à débourser de son propre argent, faire des efforts, couper son bien-être en partie à nous en vue de faire le bien à l'autre qui en a besoin. Donc, première chose. Deuxième chose, c'est ça, c'est s'occuper. Il prit soin de lui. L'amour, c'est quoi? C'est pas apprécier. C'est d'abord, dans une perspective biblique, c'est prendre soin de l'autre. Donc, to take care en anglais. Et puis ça nous parle des actions. Que faites-vous pour démontrer votre amour aux gens? Que faites-vous concrètement pour manifester cet amour? Et puis, c'est vraiment important aussi, encore là, de pas juste... Tantôt je parlais du danger de faire le bien à l'autre sans avoir les bonnes motivations. Mais là, c'est aussi possible de avoir les bonnes motivations, mais pas rien faire, right? C'est possible d'être bien intentionné. Tu vois un pauvre un sans-abri dans la rue en allant au métro. Puis tu sais, bon, souvent ça peut donner qu'on a rien, mais si jamais, quand on se dit toujours « Ah, j'aimerais ça lui donner », mais jamais on s'organise pour lui donner ou donner de d'autres manières, d'autres façons pour la même cause, eh bien, tu as une bonne disposition, tu as une bonne valeur, mais ta valeur, elle est théorique. Ta valeur, elle est non pratiquée. Et puis, on a tous ce genre de valeur-là qu'on prône. Plus profond de nous, on la prône. Mais en réalité, si on regarde le temps, l'argent que tu mets à ce niveau-là, ça reflète pas la valeur que tu as au plus profond de toi. J'ai lu cette histoire qui est comique d'un pasteur aux États-Unis qui sa femme voulait qu'il achète un jouet, mais c'est comme un... Si je comprends bien, c'était comme un walkie-talkie qu'on met dans la chambre des enfants et pour pouvoir entendre le bruit et les cris, etc. Et puis, ça coûtait 70$. Et là, lui, il disait, ah, ben là, c'est, le budget est serré, là, il checkait pour les aubaines, etc. Et puis, à un moment donné, il se promène et puis, en auto, il voit une vente de garage. Et là, il voit exactement l'élément que sa femme veut qu'il achète. Et puis, il s'arrête avec son véhicule et puis, il dit, il essaie de bargainer, tu sais, là, il se rend compte que c'est à 40$, là, il essaie de l'avoir à 20, là, la personne a dit 30, là, il dit comme 22, là, comme ça bargain de même, puis à un moment donné, la personne a dit, ok, je te laisse à 27, là, il dit, je suis un pasteur, j'ai 5 enfants, s'il te plaît, donne-moi une pause, comme je suis vraiment serré, là, comme laisse-moi là à 25, là, genre. Et puis là, la madame a dit, ah, ouais, t'es pasteur, ok, ah, ben, oh, ouais, je te laisse à 25. Et puis là, il ouvre son portefeuille, puis la seule chose qu'il y avait, c'était un 100$. Il s'est senti comme, oh, mais c'est juste, il parlait de comment c'était important pour lui l'intégrité, l'honnêteté, et puis comment il s'est fait, dans le fond, avoir. Parce que c'est ça, il prône cette valeur-là, mais en réalité, c'est ça, c'est un événement qui a juste illustré que on peut être parfois des êtres de contradiction. On a telle valeur, mais qu'est-ce qu'on fait vraiment pour la mettre en pratique concrètement? Donc, se préoccuper et s'occuper, et les deux ensemble. Et le troisième point, c'est du bien. On peut mettre aussi l'autre. Du bien de l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par le mot bien? C'est l'intérêt, c'est l'épanouissement de l'autre. Et puis, ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est complètement l'inverse hein, du mot aimer dans le monde occidental ou en tout cas, du moins québécois. Quand on dit j'aime, c'est que je reconnais le bien que tu m'apportes. Right? C'est, mettons, un mari qui dirait à une femme, qui est un mari qui dirait, ou du moins un homme qui dirait à sa conjointe qu'il la laisse, là, je te laisse, puis en fait, c'est quoi? Je t'ai jamais aimé. Dans une perspective du monde, là, c'est comme une insulte à l'égard de la femme, parce que ça dit, dans le fond, j'ai jamais trouvé rien en toi d'aimable, j'ai jamais vraiment apprécié rien de bien en toi, t'as rien de bien toi. Mais dans une perspective chrétienne, c'est pas une insulte à l'égard de la femme. C'est le gars, il s'insulte lui-même parce que dans une perspective chrétienne, l'amour, c'est une vertu. Puis l'amour, c'est de dire que moi, tu es important pour moi et je cherche ton bien. Donc, l'homme qui dit à la femme, je t'ai jamais aimé, c'est dans le fond, il lui dit, je n'ai jamais vraiment cherché ton bien. Bon débarras, d'après moi. Mais, donc, c'est vraiment comme une perspective qui est inversée. Et puis ici, faut vraiment comprendre cette distinction comme C.S. Lewis est en train de nous introduire. Je vais poursuivre la citation où est-ce qu'il distinguait entre l'appréciation et l'amour. Je lis ceci. Donc, notre amour pour nous-mêmes ne veut pas dire que nous nous apprécions nous-mêmes. Cela veut dire que nous souhaitons notre propre bien. Pareillement, l'amour chrétien pour notre prochain est une chose pas mal différente que notre appréciation ou notre affection pour lui. Nous apprécions tel genre de personne et non tel autre genre. C'est important de comprendre que notre appréciation naturelle n'est ni un péché ni une vertu, au même titre que vos goûts ou vos dégoûts pour la nourriture n'est pas un péché. C'est simplement un fait. Mais, bien sûr, ce que nous faisons à propos de cela est soit péché ou vertueux. Puis ici, je suis en train de parler d'une notion qui est peut-être contre-culturelle, c'est la notion qu'on s'aime tous soi-même. Et puis, en fait, c'est vraiment intéressant parce que, vous savez, avec Freud, je vais parler un peu de psychologie, là, mais Freud, dans les années 1900, a vraiment profondément eu un impact sur la pensée occidentale avec toutes ses études sur la psychanalyse et les pulsions, etc. Il est venu à donner naissance, il a eu une influence du moins sur l'avènement d'une panoplie de conseillers conjugaux qui avaient un système de valeurs différent des conseillers qui étaient avant eux. Avant Freud, lorsque les gens avaient des problèmes, surtout disons un couple par exemple avait un problème, qui ils allaient voir, c'était le clergé. Donc, c'était soit le pasteur ou le prêtre. Et ce que le clergé visait, c'était, dans la relation, c'était la réconciliation. C'était de trouver une solution pour que pour sauver la relation, pour épargner la relation et que, par le pardon, il puisse y avoir restauration, guérison et continuité dans la relation. Mais après Freud, les conseillers conjugaux sont venus avec un autre système de valeurs qui ont remplacé la réconciliation par quoi? Par l'épanouissement personnel, la réalisation de soi. Donc, ce qui fait que de nos jours, si une personne, par exemple, va dans un cabinet de conseillers conjugaux qui n'ont pas des valeurs chrétiennes, ce qui risque, selon le sociologue Tony Campolo, ce qu'il affirme, c'est que ce qu'il est probable qu'eux vont se faire dire, c'est qu'ils vont se faire prendre à part puis ils vont dire « si je peux sauver votre mariage, tant mieux ». Mais c'est pas ça ma première préoccupation. Ma première préoccupation, c'est votre bien-être personnel. Donc, c'est un autre système de valeurs complètement. Et puis, je veux vraiment pas dire en ce moment que la psychologie est pas bonne. J'ai cité tantôt même un Willy Pacini, un psychologue. Il y a des bribes de sagesse, mais en même temps, faut avoir du discernement dans les valeurs qui sous-tendent tout ça. Et puis, ce que je suis en train de dire, c'est ça, c'est que la venue de la psychologie moderne est beaucoup guidée par la valeur de l'épanouissement personnel. Et ça, ça va à l'encontre de la valeur primordiale que Jésus prône. Jésus semble dire que c'est en cherchant ton épanouissement personnel que tu le trouveras pas. Comme un chien qui tourne pour avoir essayé d'attraper sa queue, là, ça peut être amusant pendant un temps, mais tu finis par te rendre compte que c'est vain. Jésus dit, celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie pour moi la trouvera. Fait que c'est comme si Jésus a inversé ça et puis lui donne la valeur de l'amour qui est quoi? Qui est de chercher le bien de l'autre, chercher l'épanouissement des autres, l'épanouissement de ceux qui sont dans notre entourage, dans notre communauté de foi. Tu peux cliquer. Je veux vous prouver que... OK, ouais. Parenthèse ici avant de continuer. Tout ça présuppose que nous avons tous la même valeur aux yeux de Dieu parce qu'on est créé à son image. Sur quelle base est-ce que je peux aimer mon ennemi au même titre qu'aimer mon prochain ou aimer Dieu? C'est que dans tous les cas, chacune des personnes ont une valeur infinie aux yeux de Dieu. Et notre valeur ne dépend pas de nos erreurs, de nos échecs, de nos péchés, de nos égarements. Notre valeur est indépendante de tout ça parce qu'elle est ancrée dans le fait qu'on est créé à l'image de Dieu, ce qui fait qu'on est quand même digne d'être aimé. Maintenant, peut-être que les gens vont apprécier moins si on fait ce genre de choses-là, mais ça change pas à notre valeur aux yeux de Dieu. Et puis, sur cette base-là, même une personne qui sera en prison parce qu'elle a commis des actes vraiment répugnants, conserve une valeur et puis on peut quand même viser son bien parce qu'elle est précieuse aux yeux de Dieu. Mais maintenant, je veux vous prouver quelque chose. Je veux vous prouver qu'on s'aime tous soi-même. Et ça, c'est important parce que comme j'ai dit tantôt, dans notre société qui valorise beaucoup l'épanouissement personnel, c'est tellement ancré en nous que ça nous amène même à réinterpréter le plus grand commandement, le plus important, qui est « tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même ». Comment est-ce que ça nous fait réinterpréter ce passage-là? Et là, on se dit « ok, donc faut que j'aime mon prochain comme moi-même, donc… » Si je m'aime pas moi-même, je peux pas aimer mon prochain, right? C'est ça le raisonnement. Mais dans une perspective biblique, L'amour de soi, c'est déjà acquis. C'est acquis déjà. Tout le monde s'aime soi-même. C'est un tremplin qu'on comprend tous, à partir duquel on peut aller vers les autres et aimer les autres. Et c'est ça que je vais vous prouver en ce moment. Donc, je t'invite à tourner. Dans Éphésiens 5, versets 28 à 33, Paul a dit ceci. « De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Tu peux continuer. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Personne, en effet, n'a jamais haï sa propre chair. Compris dans une conception biblique, ça fait beaucoup de sens parce que aimer, selon les Écritures, ouais, du moins la grande majeure partie des utilisations dans les Écritures, aimer, c'est chercher son propre bien. Donc, nous cherchons tous ici notre propre bien, même si on ne s'apprécie pas. Je peux peut-être pas aimer le fait que, je sais pas, je trouve que je pèse trop, je suis trop gros, ou j'aime pas les cheveux gris. Je peux peut-être pas apprécier le fait que, je sais pas, une personne pourrait ne pas apprécier le fait qu'elle a de l'acné ou des choses comme ça. Mais c'est différent l'appréciation que l'amour. Parce que l'amour, c'est, même si la personne a peut-être... un surplus de poids, des problèmes bon au niveau de son apparence physique qu'elle n'apprécie pas, elle va quand même chercher son propre bien, c'est-à-dire que elle va quand même arriver dans une pièce puis mettre le thermostat à la bonne température pour être confortable. Elle va quand même manger elle va aimer manger, elle va aimer, elle va prendre soin de son corps, elle va se laver, elle va viser son propre bien quand même si elle n'apprécie pas nécessairement certains éléments de son corps, de sa personne. Fait qu'il faut vraiment faire la distinction parce que c'est ça, c'est la base, notre amour de soi, le fait qu'on comprend bien, qu'on vise toujours notre propre bien, c'est la base pour aller vers l'autre et chercher le bien de l'autre. Tu peux continuer? Donc ici, 1 Corinthiens 13, qui vient un peu illustrer ce que j'ai dit précédemment. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Donc, quel beau passage qui illustre le fait qu'on peut faire plein de choses, mais si on n'a pas les bonnes dispositions intérieures, devant Dieu, ça ne sert à rien. Et là, les dispositions intérieures sont listées après, on les connaît bien. L'amour est patient, l'amour ne se vante point, etc. L'amour cherche l'intérêt de l'autre. On ne pourra pas le lire. Hein? J'ai coupé ça là, mais on pourrait le lire. Donc, je vous invite à tourner avec moi dans 1 Corinthiens 13. Verset 4, on va aller jusqu'à 8. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Donc, c'est vraiment un encouragement ce matin à tendre de plus en plus vers cette valeur qu'est l'amour. Puis, je vous encourage vraiment à avoir ça comme un continuum. Hein? Un continuum, là, c'est, mettons, une échelle de moins 10, à 10, là, en passant par 0, ou est-ce qu'on varie, c'est pas une catégorie ou l'autre, c'est pas, oh, il y a les orgueilleux et les égoïstes d'un côté et ceux qui sont aimants à l'autre côté, mais c'est vraiment comme plus comme un continuum. Et puis, on a tous à être capable de déceler ces petites tendances où est-ce qu'on se préoccupe de nous-mêmes et puis pas assez de l'autre. Pour vous donner un exemple, ça peut être sur moi des fois, mais en préparant ce message, à un moment donné, je suis à la maison, je prépare ce message. Là, je me dis, j'allais me faire un milkshake, là, ça va me faire du bien, ça va me rafraîchir. Là, Sam va me sortir toutes mes affaires pour faire mon milkshake, puis elle me dit, ah, peux-tu m'en faire un, moi aussi? Puis je dis, ah, je suis vraiment pressé, je suis en train de faire un message sur... Non, c'est bon, je te le fais. Donc, c'est vraiment ça. Bon, on a tous c'est des petites tendances à juste penser à nous et puis à se rappeler. Ah non, regarde, on est appelé à marcher comme Christ a marché, c'est-à-dire de sortir de notre propre intérêt, puis de vraiment aussi prendre le temps pour l'autre, de faire des services à l'autre, puis être attentionné, etc. Donc, c'est vraiment un encouragement qui va dans ce sens-là. Et puis, c'est pas la culture ou les publicités qui va nous pousser à ça. Les publicités, c'est un peu dans la même perspective que Freud, ça vise l'épanouissement personnel. Ça va toujours nous montrer là des beaux, des personnes bien habillées, avec des belles voitures, qui sont heureux, qui mangent ensemble, ça nous pousse à atteindre un bien-être personnel et non celui de l'autre. Donc, c'est vraiment Christ qui nous apprend cet amour. J'ai une petite histoire concernant peut-être cette facette que vous avez déjà entendue. C'est un jeune homme appelé Narcisse. Et puis, selon toutes ses connaissances, Narcisse était le plus beau et de loin. C'était vraiment une beauté sans pareil. Et lui-même se trouvait très, très beau. Aucune des demoiselles ne lui démontrait de l'intérêt assez. Mais en fait, ne l'intéressait assez à ses yeux. Et puis, depuis qu'il était enfant, il aspirait à trouver une personne qui était aussi beau que lui. Et puis, il était toujours déçu jour après jour. Mais à un moment donné, il a été invité dans un bain public. Et puis, contre toute attente, là, il rencontra enfin la personne aussi belle que lui. Et puis, il était tellement absorbé par la splendeur de l'autre qu'il en a oublié de boire et manger. Et après quelques jours, il a fini par tomber là, mort dans son propre reflet. Donc, c'est un mythe grec, dans le fond, qui illustre, dans le fond, comme cette tendance à l'être humain. Mais ça, c'est hyperbolique de cette évidence. Mais ça nous démontre que on a tous ces petites racines-là qu'il faut éradiquer en nous. Et puis, lorsqu'on regarde le récit de la Genèse, c'est vraiment... c'est qu'est-ce que Satan a essayé de faire? Qu'est-ce que Satan a essayé d'induire en l'être humain? C'est la quête de son épanouissement personnel par lui-même. Regarde cet arbre, et puis il est apte à donner la connaissance du bien et du mal. La femme vit qu'il était beau et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, puis Dieu ne veut pas, nous, qu'on s'épanouisse. Fait qu'il faut s'occuper nous-mêmes de notre épanouissement personnel. Assurons-nous qu'on va s'épanouir parce que Dieu, lui, ne veut pas ça pour nous. Et puis, c'est comme ça que Adam et Ève ont chuté. Et puis, Dieu veut qu'on s'épanouisse. Dieu, c'est son désir, mais c'est que en cherchant notre propre épanouissement personnel, c'est là qu'on le perd. C'est en consacrant notre vie pour le bien des autres qu'on le trouve. Et puis ça, c'est l'erreur que Adam et Ève ont faite. Donc, tu peux peut-être finir avec la dernière diapo. Ça ici, c'est le résumé de tout ce que j'ai dit. Puis je veux dire que tout ce que je vous invite à faire ici, on peut dire que Dieu le fait pour nous. Dans le sens que Dieu se préoccupe de chacun d'entre nous ici. À chaque moment, Dieu, vous êtes dans son cœur, vous êtes important, vous êtes devant lui, et puis il se préoccupe de vous, il a compassion de vous, et puis il est là. Et en même temps, à chaque instant, il s'occupe de vous, même si on le voit pas. J'ai vu une image passer sur Internet. C'était une image de l'univers. Puis là, il y avait une citation qui disait quelque chose comme. À chaque seconde, Dieu fait des dizaines de milliers de choses pour nous, mais on n'est conscient que de une ou deux. Mais imaginez, à chaque seconde, Dieu maintient l'univers pour qu'il soit habitable, l'axe de la Terre est parfaitement aligné, la couche d'ozone est là, notre cœur bat, nos poumons sont remplis d'air, mais on est conscient que qu'à peine un ou deux, et puis, mais à chaque instant, il s'occupe de nous, même quand que parfois ça semble pas être le cas. Et puis, il veut notre bien, et puis tout ça présuppose qu'à ses yeux, on a une valeur infinie. Et la preuve de ça, comme on l'a vu dans la pièce de théâtre, Arachide a donné sa vie pour sauver les êtres humains qui avaient pris une tournure déshumanisante. C'était rendu des robots, c'était rendu des esclaves. Et puis, de la même manière, Jésus a donné sa vie pour nous, pour nous éviter de continuer dans cette déshumanisation, dans cette voie qu'on a entrepris, qui est de viser notre propre bien, qui mène à tant de maux. Donc, simplement un message de base aujourd'hui sur l'amour. Dieu nous aime et puis il nous invite à vivre dans son amour. Et puis, que le Seigneur vous bénisse. Donc, je finis en prière et le groupe de musique peut s'avancer. Père Céleste, je veux te remercier pour ta parole qui est riche et merci Seigneur de ce que tu nous as appris qu'est-ce que l'amour. Nous avons appris qu'est-ce que l'amour parce que tu as prouvé ton amour pour nous à la croix alors que nous étions encore pécheurs. Tu es venu Seigneur pour notre plus grand bien. Et puis ma prière Seigneur, c'est qu'on puisse visualiser ça, ressentir ça, qu'on puisse comprendre ça de tout notre cœur, de toute notre intelligence, et qu'on puisse vraiment vivre dans ton amour, Seigneur, qu'on puisse croire que tu nous aimes, qu'on puisse croire qu'on est important pour toi, qu'on puisse croire que tu t'occupes de nous et que vraiment, Seigneur, tu es là, présent, peu importe les circonstances, et que, Seigneur, ça nous donne cette sécurité nécessaire, cette paix nécessaire pour que nous, on arrête de s'occuper de nous-mêmes et qu'on puisse faire comme toi pour s'occuper des personnes que tu mets autour de nous, de notre femme ou de notre mari, si on est une femme, de nos enfants ou de nos amis ou des personnes autour de nous au travail, Seigneur. Donne-nous d'avoir cet amour radical comme tu as eu cet amour radical, Seigneur Jésus. Et je te demande, Saint-Esprit, de nous aider à voir ces racines qui font en sorte qu'on est tourné vers nous et puis aide-nous, Seigneur, à nous décentraliser et puis à se tourner vers les autres, Seigneur, pour ta gloire. Et merci pour cet amour si riche que tu as manifesté à la croix, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.